RMC, 9h midi.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Les grandes gueules.
1, 2, 3, 4.
La suite des grandes gueules sur RMC, la radio RMC Story, la télé, avec autour de la table aujourd'hui l'entrepreneur Emmanuel Devilliers, la coach de vie Joël Dagosséry et le cheminot Bruno Poncet. Mes chers amis, je vous propose de revenir sur ce débat qui a été organisé hier par BFM TV à Marseille, le premier grand débat des municipales entre les quatre principaux candidats. Malheureusement, ça s'est pas bien passé pour l'une des candidates. La candidate en question, c'est Martine Vassal. Elle est la candidate LR Renaissance à la mairie de Marseille. Et voilà ce qui s'est passé hier sur BFM TV.
Que mes valeurs, elles n'ont jamais changé.
Donc vous dites c'est ni le mérite, LFI, ni
RN. C'est le mérite, le travail, la famille, la patrie. Et effectivement aussi, ce qui me différencie de monsieur Alizio, c'est l'humanité. Et aussi la solidarité qui va à la personne qui va le mieux.
Non, et vous non?
Allez-y, Benoît Payan.
Non, je ne sais pas, vous l'avez entendu ou
pas? Répétez-le.
Je crois que vous avez dit travail, famille, patrie.
Oui,
c'est le slogan du monsieur Pétain, ça.
Oui, d'accord, mais moi, c'est mon slogan et ce sont mes valeurs.
Okay.
Et le mérite aussi, le travail aussi.
Sur le fond, Benoît Payan, Martine Vassal, vous assumez?
J'assume que mes valeurs, ce sont... Non, c'est pas des valeurs... Elles sont passées de mode, ces valeurs-là. Moi, j'assume mes valeurs.
Voilà, c'est mon slogan, travail, famille, patrie. Alors pas besoin de se plonger dans les livres d'histoire pour se souvenir que c'est effectivement le slogan du maréchal Pétain. Est-ce qu'elle a dérapé, Madame Vassal? Le 32-16 pour intervenir et pour réagir. Emmanuel Devilliers.
Alors, elle a dérapé par rapport à ses convictions, puisqu'elle n'endosse pas la formule de la période de Vichy. Mais en même temps, on lui fait quand même un procès, une certaine cabale, puisqu'elle dit le mérite... Le travail, la famille, la patrie, c'est pas travail, famille, patrie. Ce n'est pas exactement le même vocable.
Elle a été maladroite.
Elle a été très probablement maladroite. Mais ces mots, travail, patrie, famille, c'est pas des mots interdits. Faut arrêter de les interdire. Parce que c'est quand même le socle de notre fondement national. Le travail, Sarkozy en a parlé. Et tout reste à faire. La famille, on parle de problèmes démographiques, de tout un tas de problèmes d'éducation. C'est aussi au cœur de nos problématiques. Et puis la patrie, évidemment, on loue les Ukrainiens qui défendent leur pays et nous, on n'aurait pas le droit de parler de notre patrie. Non, il faut pas être victime de ce terrorisme médiatique.
Les terroristes médiatiques, on les
envoie au plot.
C'est l'association des trois mots dit comme ça. Effectivement, on peut parler du travail, on peut parler de la famille, la patrie. Travail, famille, patrie, forcément, elle fait une référence qui n'a pas échappé d'ailleurs à Benoît Payan. Et le problème, c'est que derrière, elle se rend pas compte qu'elle est un peu maladroite. Donc elle dit, oui, mais c'est mon slogan. Et c'est là que, à mon avis, elle s'enfonce, non, Joël Dagosséry?
Tu vois, je rejoins un petit peu ce que dit Emmanuel, parce que ces valeurs-là pris indépendamment.
Oui.
Enfin, moi aussi, je peux te dire que
tu peux défendre la famille,
bien sûr.
La patrie, le travail, le mérite.
Là où ça pose problème, c'est quand elle dit, ce sont mes valeurs depuis toujours. Alors, depuis toujours, j'imagine que elle connaît un peu l'histoire. Donc, quand tu dis, elle dit, c'est mon slogan. Parce qu'elle parle pas que de valeurs.
Elle dit, c'est mon slogan.
C'est pour ça que je dis que oui, moi aussi, c'est des valeurs que je défends. Mais elle dit, c'est mon slogan. Donc ça c'est autre chose.
Oui, c'est là où elle s'enfonce.
C'est là où elle s'enfonce. Et donc quand on lui dit que attention, mais dis donc, c'est le cours de Marchal Pétain, elle revient même pas en arrière. Elle rentre dedans et elle assume complètement.
Elle aurait dû dire bien sûr, vous voyez bien que je fais pas référence à Pétain.
Exactement. Voilà. Elle aurait très bien pu dire ça. Elle aurait très bien pu dire que Pétain a dévoyé ces valeurs là, etc. Et elle, mais non, pas du tout. Ça l'intéresse même pas. Donc là on a un vrai problème.
C'est-à-dire qu'en direct elle ne se rend pas compte qu'elle en train de faire une énorme boulette.
Oui, je crois qu'elle ne... j'espère de bonne foi là, qu'elle ne se rend pas...
Elle est prise dans le jeu du débat. Comme c'est Payan, son adversaire, qui lui fait remarquer, à mon avis, c'est un peu un mode automatique. Non, attendez, je ne vais pas me remettre en cause.
Je veux dire, quand elle dit depuis toujours... je me suis dit, bah, depuis toujours, c'est pas une nana qui a 20 ans. Pardon, c'est
non, elle est présidente de la métropole voilà. marseillaise.
Donc, depuis toujours, ça veut dire qu'elle pense la politique depuis très longtemps.
C'est
elle a un socle, voilà, idéologique, je l'espère. Et donc, je suis quand même un peu étonnée qu'elle prenne le slogan en entier comme ça et qu'elle dise, ah oui, c'est depuis toujours. Bon. Ok, mais ce que je veux rappeler dans ça, c'est qu'on l'oublie souvent, mais on nous dépeint toujours, on nous a fait 10 000 films sur la France résistante. Mais la France, les élites, je ne parle pas des Français, mais les élites, elles ont aussi des Français, elles ont été collaborationnistes. Excuse-moi. Oui. Si.
Pas toutes. Les Français n'ont pas été collaborationnistes. Les Français, à un moment donné, ont été pétainistes parce qu'ils ont cru que le maréchal Pétain les protégerait, et puis ils se sont rendus compte que non.
Nous avons des Français qui ont porté l'uniforme allemand. D'accord,
c'est à la marge.
Ça a existé.
Oui, ça a existé.
Donc c'est dans notre histoire.
Majoritairement, les Français n'étaient pas des collabos.
Non, mais j'ai pas dit que je dis que c'est dans notre histoire. Et je dis que quand cette dame dit depuis toujours, je suis désolée, on a un vrai problème.
Non, mais je pense que. Alors, est-ce que c'est une faute de langage, une maladresse totale? Et c'est même inquiétant parce qu'à ce niveau-là, tu peux pas te permettre. Ou est-ce qu'il y a un fond? Est-ce qu'elle a voulu draguer aussi une partie de l'électorat? Elle s'est pris les pieds dans le tapis et bon français.
Bah moi je pense plutôt qu'elle était en service commandé en fait parce que cette dame elle est LR, elle est soutenue par Renaissance. Ça fait quand même quelques jours qu'on entend que tout sauf les filles tout sauf la gauche et puis derrière Renaissance, je pense que là c'était un pont,
sachant que dans les sondages elle est en difficulté, Franck Alizio lui est passé devant le candidat RN et qu'elle pour l'instant elle est en troisième position
Et moi je pense qu'elle était là pour récupérer peut-être un peu d'électorat du RN et puis peut-être après pour tendre la main au RN pour pas qu'on l'oublie après. Moi je pense réellement qu'aujourd'hui, je pense que cette dame, je lui donne quand même un parachèque en blanc, mais je pense qu'elle est intelligente, donc ce genre d'erreur, ça doit pas être une erreur.
C'est pas une erreur.
Non, c'est calculé. Moi je pense que c'est calculé parce qu'en fait elle veut draguer l'électorat du RN, c'est tout.
Non.
Mais non, mais moi je pense que c'est calculé, faut pas croire.
Elle va perdre 3 points là-dessus, c'est pas calculé.
Elle perdra 3 puis elle en gagnera 5 après, t'inquiète.
Elle va perdre des macronistes.
Oui, bon, les macronistes, je veux dire, c'est même pas les macronistes, c'est même pas des Giroud, je sais pas comment on peut appeler ça, c'est des tourbillons.
Visiblement chez les macronistes, forcément les gens ils ont vu ça hier soir, certains ont peut-être sauté dans le vieux port, tu sais. J'imaginais l'équipe de Martine Vassal regardant le débat sur BFM TV. Oh là 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 là, se dire qu'est-ce qu'on va faire. Donc là, c'est opération rattrapage. Renaud Muselier, c'est le patron de la région qui soutient Martine Vassal. Les macronistes, ils sont tous là en émoi et donc ils essayent de trouver les moyens d'essayer de la sauver.
Acteur studio, tout ça, c'est acteur studio. Moi, je pense qu'ils sont bien contents qu'elle ait fait ça. Mais ça, un peu déjà, on parle d'elle.
Pas sûr qu'elle va
tout le monde
profiter.
Se foutait de Martine Vassal depuis le départ. Là, on parle d'elle. Et puis derrière, après, elle a affiché ses valeurs. Moi, je pense pas qu'aujourd'hui quelqu'un qui a entre 40, je sais pas quel âge, dans une cinquantaine, puisse ne pas savoir ce que c'est que travail, famille, patrie.
Oui, c'est ça.
C'est pas des mots qu'on emploie nous. Moi, je veux dire, au lieu de dire patrie, moi, je dis, au pire, on peut dire pays ou nation.
Non, mais c'est vrai, quand tu dis travail, famille, patrie, tu sais précisément à quoi ça fait référence.
C'est un gamin de 15 piges, on peut dire.
Là, ça dit quelque chose, soit du niveau de la candidate, soit, comme le dit Bruno, d'une volonté d'aller sur un certain terrain politique et puis elle se prend les pieds dans le tapis parce que c'est trop gros, en fait.
C'est vrai que le mot patrie peut se voir substituer le mot nation, mais c'est pas exactement la même émotion. Mais pour le mot travail...
C'est l'association des trois. Et là, elle reprend un slogan.
Mais pour le mot travail et le mot famille, il n'y a pas vraiment de...
Moi, je me souviens que Nicolas Sarkozy avait assumé, dans sa campagne en 2007, il dit, moi, j'assume le travail, la famille, la patrie, etc. Mais il l'avait dit d'une façon plus intelligente. Là, elle reprend tel quel le slogan.
Alors, elle ajoute le mérite quand même en préambule.
Oui, elle rajoute le mérite. Wallace c'est avec nous au 32-16. Il nous appelle de Courbevoie, dans les Hauts-de-Seine. Bonjour, Wallace.
Ah oui, bonjour les GD. Bonjour, vous allez bien?
Ben bien, et vous? Alors, que pensez-vous des propos de Martine Vassal?
Écoutez, pour moi, c'est simplement une erreur de placement de mots. Alors peut-être que derrière, en effet, il y a un manque d'habitude des débats ou une pauvreté politique, je ne sais pas, mais c'est des valeurs que malheureusement on oublie un petit peu trop vite, qui sont quand même celles aussi de la France, même si on rapporte tout un petit peu au passé et à Pétain. C'est vrai que moi aussi j'ai tilté tout de suite quand j'ai entendu ça, je dis oh là là, où elle va. mais c'est des valeurs universelles, je pense que travail, famille, patrie, oui, d'accord, il y a pas, voilà, mais pas le ramener tout de suite à Pétain. Je crois que
c'est pas la façon de le dire comme ça. C'était voilà, très maladroit.
Voilà, on aurait dû, elle aurait dû dire à ce moment-là, elle aurait dû dire peut-être nation au lieu de patrie, comme on a dit, comme on a dit il n'y a pas longtemps.
Ou dans le désordre.
Ou dans le désordre, exactement.
Patrie, travail, famille.
Pour reprendre votre terme, c'est une erreur de placement de produit.
Voilà. Mais quand on entend ensuite la pauvreté du débat, et notamment par exemple de la part de M. Delocu, c'est quand même, voilà. On est sur un niveau très très bas. Hein, très,
ouais.
très
oui,
bas.
Et, moi, c'est ce qui m'a un peu frappé aussi.
Débat de pauvre facture, hein, je peux vous dire.
Qui part de très haut, parce que M. Delocu, c'est une armoire à glace, il est vraiment imposant. Hein.
Oui, physiquement, il est imposant.
Quand même, le pire, c'est que quand on voit qu'il y a quand même 12% de la des gens qui vont voter pour cette personne-là, ça fait peur. Hein. Ça fait peur, et c'est pas le seul. Dans différentes villes, il y a quand même des candidats qui ne devraient même pas être candidats. Je prends par exemple, je crois que c'est à Lille où il y a un candidat. Non, à Strasbourg où il y a un candidat sur la liste LFI, pareil, qui se revendiquait à l'époque de la Jeune Garde, ou je sais pas quoi. Et on repart encore dans des idées extrêmes qui risquent encore de mettre.
Alors il n'est pas sur la liste LFI finalement, il est sur la liste NPA, Philippe Poutou. Ouais,
c'était pas Poutou. Non, c'est pas Poutou.
C'est un ancien porte-parole de la Jeune Garde. Il est sur la liste à Strasbourg du NPA.
Ouais, ah d'accord, ok.
Voilà, je vous le dis parce que je l'ai interviewé sur BFM TV.
Il n'y a pas de souci.
Enfin, il est toujours très Jeune Garde dans sa tête. Merci Wallace. Merci.
Rien.
En tout cas, vous dites les valeurs en tant que telles ne sont défendables. Le travail, la famille, la patrie, mais c'est la façon d'associer ces trois mots.
Excuse-moi, moi je pense, hein, si t'es quelqu'un de normal, tu commences par, je sais pas, Emmanuel dirait patrie en premier, famille et travail. J'imagine peut-être que tu irais à peu près dans ça, mais quand tu dis travail, famille, patrie, tu peux dire ce que tu veux.
C'est un slogan.
Est-ce qu'elle l'a fait parce que c'est pas par bêtise, mais par ignorance non plus, mais par maladresse. Est-ce qu'elle voulait draguer une électorale, mais je sais pas qu'elle veut draguer.
Que le péténisme est quand même à la mode, en tout cas certaines de ses valeurs.
Oui, mais Franck Alizio, si elle veut draguer, parce que j'ai entendu dire, comme toi un peu Bruno, oui, elle veut draguer l'électeur RN. Mais pardon, Franck Alizio, il reprend pas les slogans du
PS.
Regarde, le RN, lui, il veut devenir, il veut se normaliser. Par contre, les autres veulent devenir le RN, l'ancien RN. Donc en fait, c'est pour ça qu'on comprend plus très bien ce qui se passe. C'est qu'eux, ils descendent en intensité, mais les autres montent en intensité. Donc moi, je crois qu'elle sait très bien à quoi elle fait référence. C'est pas une jeune fille.
On est dans une grande confusion parce qu'on parle beaucoup de la Jeune Garde, mais il y a aussi, avec Mélenchon, c'est plutôt la vieille garde.
Alors nous sommes avec Julie, la Marseillaise. Bonjour Julie.
Oui, bonjour.
On était chez vous hier, Julie.
Oui.
Qu'est-ce que ça soufflait ? Il y avait un vent dingue.
On a fait la une des, des médias.
Julie, oui, Marseille est au cœur de l'actualité hier. Alors, que pensez-vous de ce qu'a dit Martine Vassal ?
Alors, je ne sais pas si vous avez regardé le débat, mais elle a commencé par mérite, travail, famille, et patrie, et humanité et solidarité. Donc c'est après, c'est sûr que le candidat sortant Ville de Marseille s'est engouffré dans la brèche parce qu'il était tellement rageux. Clairement, elle a pris le dessus, je pense. Enfin, il y a Delocu et il y a Martine Vassal qui ont pris le dessus hier pendant le débat. Donc évidemment,
il a pas dû voir le même. Alors.
Et à côté de ça, c'est quand même fou. C'est quand même fou qu'on puisse tiquer sur des valeurs de travail, la France qui se lève tôt, la France qui travaille plutôt que quoi. On préfère mettre en avant la France qui casse, la France qui crasse sur.
Oui, mais le problème, Julie, c'est pas les mots en tant que tels, c'est l'association de ces trois mots, et puis surtout que Benoît Paillon lui fait remarquer que c'est slogan de Pétain, et elle, au lieu de dire, bien sûr, je fais pas référence à Pétain, enfin, vraiment, c'est scandaleux ce que vous dites, elle dit, mais non, c'est mon slogan, comme si elle assumait finalement, et c'est là où, à mon avis, elle était très maladroite.
Oui, je pense qu'elle a eu un peu de maladroitesse, mais c'est surtout que c'est là où en fait, on a oublié qu'elle avait commencé par mérite, on a oublié qu'elle avait terminé par solidarité et humanité. Et en fait, c'est vrai que ça devient des gros mots. Et évidemment qu'il a bondi, les médias vont bondir sur l'occasion parce que ça peut faire le buzz, etc. Mais du coup, ça éloigne en fait.
Non, ce qui fait le buzz, c'est pas ça. Ce qui fait le buzz, c'est quand on lui remarque ce qu'elle a dit comme connerie. Elle dit oui, travail, famille, patrie, c'est mes valeurs depuis toujours. Si elle avait dit solidarité, humanité, travail, famille, patrie, ouais, ok, elle a remanié le truc. Non, mais elle a pas dit ça. Après, elle a dit travail, famille, patrie, c'est mes valeurs depuis le début.
Julie, comme vous rappelez l'intégralité du propos, d'une certaine manière, ça fait un peu pêche aux voix quand même.
Non, honnêtement, non, parce que regardez, après, elle a dit, enfin, après, moi, je sais pas, elle a dit, jamais j'appellerai, enfin, j'ai jamais appelé à voter RN et jamais je voterai RN. Donc, c'est pas pour draguer des électeurs de
D'ailleurs, il n'y aura pas d'accord entre elle et le RN.
Bah non,
elle se maintiendra au deuxième tour, même si elle arrive troisième.
Mais oui, mais non, mais elle arrive, enfin, voilà. De toute façon, elle n'arrivera pas troisième. Vous avez vu le débat hier. Enfin, clairement, il n'y avait pas de débat. Payant et ridicule.
Elle a survolé le débat. Enfin,
là, c'est la militante débat. Qui parle ou la fan de Vassal, parce qu'on n'a pas vu le même débat. Hein.
Je n'ai pas trouvé Payant, on l'a trouvé brillant.
Non, à côté d'elle, c'est quand même pas compliqué d'être plus brillant. En fait.
J'ai trouvé qu'il a un air constipé, c'est un peu gênant.
Mais Payant, il était. Enfin, de toute façon, je ne sais pas si vous êtes Marseillais ou pas, mais nous, les Marseillais, on le voit tous les jours. Ce mec, c'est un imposteur, est un menteur, est un arnaqueur. Il a trompé Marseille.
Oui, parce que c'est pas lui qui a été élu.
On se retrouve avec cette personne.
Là, du coup, c'est lui qui se présente. Donc, on verra s'il se fait élire. Il est quand même dans les sondages. C'est pour l'instant le mieux placé. Hein.
Mais oui, mais bon, en 2020, Vassal était la mieux placée dans les sondages.
C'est vrai. Vous avez raison. C'était d'ailleurs intéressant. Mais bon, en même temps, il faudra un jour quand même qu'on revienne sur cette élection de 2020 qui était quand même très particulière. Parce que souvenez-vous, les municipales de 2020, on sort du Covid. On est encore dans le Covid d'ailleurs. On sort pas. Il y a le premier tour qui est organisé. Ensuite, il y a un deuxième tour qui est annulé, qui est reporté. Donc, on vote plusieurs semaines après. Et avec un taux d'abstention record, notamment chez les personnes âgés qui avaient peur de sortir à cause du Covid, puisqu'on était encore il y avait des restrictions de circulation. Donc c'est vrai que le résultat des municipales de cette année-là, il faut le prendre avec des pincettes. Voilà, on va voir ce que les Marseillais décident.
Et même pour les Marseillais, je ne sais pas si vous avez suivi l'actualité, le plan Marseille en grand, ils avaient des milliards de l'État.
Oui, les milliards, on ne les a pas vus arriver, c'est ça.
On ne les a pas vus arriver. Enfin, c'est quand même scandaleux. Et après, il fait la pleureuse.
Le milliard du plan,
c'est quand même les copains de Vassal, hein. Macron, hein.
Pour vous, Julie, qui est le prochain maire de Marseille?
Ah, ben, c'est Martine Vassal. C'est une femme qui est candidate, quand même.
Bah, c'est pas une raison. Nous, on a eu Hidalgo, s'il vous plaît.
Une sainte femme, Hidalgo.
Le sexe ne fait pas le talent. C'est ça que tu veux dire?
Bah oui,
Mais c'est vrai que c'est pas mal d'avoir une. Il y avait qu'une femme candidate hier.
Moi, je me suis intéressée au débat parce que Marseille, c'est une ville dans laquelle je vais assez souvent, très souvent.
Oui.
Et d'ailleurs, lorsqu'il faisait référence à certains quartiers, je voyais parfaitement où c'était. Et c'est aussi la deuxième ville de France. Enfin, cette ville, elle mérite quelqu'un de très compétent, de très outillé.
Tu l'as vu hier soir, tu l'as vu la compétence hier soir? Bien sûr.
Oui, chez Apolline.
Il y avait la compétence d'Apolline.
Oui, chez RMC, il y avait la compétence.
Elle devrait se présenter à la mairie de Marseille.
Voilà. Oui, ça serait étonnant, mais pourquoi pas? Non, il faut mieux qu'elle reste journaliste chez nous. Donc, on a posé la question. Martine Vassal a-t-elle dérapé hier avec ce travail famille patrie? Qu'avez-vous répondu sur le compte X des grandes gueules? C'est très, très partagé. C'est un non. Non à 57,4%.
Toute l'indépendance d'esprit des auditeurs des grandes gueules.
Eh oui, c'est intéressant. Dans un instant, on va revenir sur ce que vient de dire la Cour des comptes. La Cour des comptes trouve qu'il y a un excès d'impôts en France.
Sans blague.
Quand même, il y aurait trop d'impôts en France.
Exagère.
L'État doit arrêter de miser sur les seules hausses d'impôts pour réduire le déficit. Ah bon? On en parle avec vous. À tout de suite.
RMC.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Les grandes gueules.
La suite des grandes gueules sur RMC, la radio, RMC Story, la télé avec Emmanuel Duvillier, l'entrepreneur, Bruno Poncet, le cheminot, la coach de vie, Joël Dagossiri, et la Cour des comptes qui trouve qu'on paye trop d'impôts. Vous savez que la Cour des comptes qui sera dirigée là prochainement, même si c'est fait d'ailleurs, c'est officiel, par celle qui a préparé le budget actuel.
Pas de conflit d'intérêt.
Madame Amélie de Montchalin. Donc c'est amusant de lire ce que dit la Cour des comptes sur ce qui s'est passé avec ce budget. L'État doit arrêter de miser sur les seules hausses d'impôts pour réduire le déficit. Voilà ce que dit la Cour des comptes. La Cour des comptes qui regrette une fois de plus la réduction du déficit public, qu'elle juge d'ailleurs modeste, se fasse sur des hausses d'impôts plutôt que par des baisses de dépenses. Et d'ailleurs, la Cour des comptes dit que si l'objectif est de revenir à 3%, là, ils disent qu'on sera à 5 en 2026, mais personne n'y croit. 3%, c'est-à-dire qu'il faudrait trouver 80 milliards d'euros d'économie ou d'hausses d'impôts supplémentaires, vous imaginez. Est-ce que la Cour des comptes a raison? Est-ce qu'elle n'ouvre pas une porte ouverte sur le trop d'impôts en France, Emmanuel de Villiers?
Évidemment qu'il y a trop d'impôts, mais ça s'explique très simplement. Si on compare avec une entreprise, c'est toujours plus facile, notamment à la demande des salariés, d'embaucher que de débaucher. Ce qui va donner plus de travail ou compliquer le fonctionnement. De la même manière, moi qui étais dans les parcs pendant 15 ans, le mauvais gestionnaire de parc, il a son budget, ses dépenses qu'il a du mal à contrôler, et après il se dit je mets mon doigt en l'air, je vais avoir tant d'entrées pour équilibrer. C'est un peu ce que fait l'État, puisque on a un déficit déjà au départ du budget et on espère qu'on va avoir des recettes d'impôts pour combler et limiter la casse et le tout le couvrir avec des prêteurs. Non, c'est un problème. Et le problème de fond, c'est finalement la démocratie. C'est-à-dire que en démocratie, pour l'instant, démocratie qui n'est pas encore adulte, c'est extrêmement difficile d'avoir l'assentiment de la majorité d'un pays, le nôtre en l'occurrence, pour des mesures dures, quand bien même elles sont nécessaires et d'intérêt général. On n'est pas prêt.
François Bayrou a essayé, il a échoué par exemple.
C'est-à-dire que si on compare à la médecine, s'il faut amputer. J'ai travaillé aussi dans les prothèses. Il faut amputer parce que la gangrène, souvent due au diabète, gagne et qu'il faut amputer un membre inférieur. Évidemment que si on demandait par simple volonté, assentiment à quelqu'un, est-ce que tu veux être amputé? La réponse c'est non. Mais il faut amputer. Et là c'est la même chose pour l'État, sauf que ça passe par le vote démocratique. On n'arrive pas à avoir la majorité.
Ça serait mieux en dictature, ça c'est vrai.
Joël Dagosséry, on n'y arrive pas aussi à baisser les impôts parce que les Français, enfin à baisser les impôts et aussi à baisser la dépense publique et surtout la dépense sociale parce que c'est ça qui coûte le plus cher parce que finalement les Français ne le veulent pas. Parce qu'à la fois on se plaint de payer trop d'impôts, mais quand on commence à dire on va moins rembourser ça, on va réduire telle aide, il y a une levée de bouclier et finalement on recule.
Non mais les Français, je pense qu'ils sont d'accord pour revoir le fonctionnement de l'État. Ils voient bien qu'il y a un souci dans la façon dont on administre ce pays et dans le système qui est en place actuellement, qui ne fonctionne plus. Il n'y a aucun Français qui est content de nos services publics, de comment on est gouverné. Donc je crois qu'ils se rendent compte qu'on a un souci et qu'il faut faire quelque chose. La Cour des comptes, quand elle dit ça, je veux dire, elle nous dit rien de nouveau. Il y a rien de neuf sous le soleil. Je veux juste rappeler des chiffres qui pour moi sont hallucinants. Je suis une travailleuse, donc c'est hallucinant. Le taux de prélèvement obligatoire dans ce pays, c'est le plus élevé de l'OCDE. On est à 45%. Tu t'imagines travailler et qu'on vienne te prendre 45% de ce que tu travailles. C'est énorme. C'est une honte internationale pour moi. Mais on devrait se cacher. Et Madame de Montchalin, qui va demain prendre la tête de la Cour des comptes, mais elle devrait se cacher. Je ne sais pas comment on peut aller prendre la tête d'une telle institution avec fierté quand on a été dans un gouvernement. Alors elle n'est pas seule, ça fait des années. Mais je veux dire quand on a participé,
Montchalin a accompagné la Macronie.
Quand on a participé à ces hausses d'impôts, c'est hallucinant pour moi. Je ne sais pas. Normalement, on promeut le mérite. Elle n'a pas de mérite à gouverner une institution qui surveille les comptes.
Mais encore une fois, je pose la question, donc, est-ce que les Français n'ont pas une responsabilité?
Les Français ont une responsabilité.
Parce que les Français, c'est eux qui
votent.
Ils
ont une responsabilité, et notamment une responsabilité qui est morale. C'est-à-dire que quand on accepte que ses enfants, que ses propres enfants soutiennent, portent sur leurs épaules la dette, une dette énorme, on a une responsabilité morale.
Mais les Français, ils ont manifesté contre la réforme des retraites, par exemple.
Parce qu'il manque de... Je suis désolée de le dire, mais parce que il manque de moralité. Oui. Voilà, désolé.
La démocratie française, c'est devenu la dictature de la majorité contre l'intérêt général supérieur.
Bah oui.
On en est là.
Mais complètement.
Bruno Poncet.
Moi, je trouve que, en fait, si on peut penser qu'on est à payer, on paye trop d'impôts, et ce qui est vrai, vu que derrière, on n'a pas le service public en échange. Par contre, on vient d'apprendre cette semaine, par des documents validés par la Cour des comptes qui viennent du ministère des Finances, qu'il y a 13 000 millionnaires qui ne payent pas l'impôt à la hauteur de ce qu'ils devraient. Et c'est pas
parce qu'ils n'ont pas de revenus.
C'est pas ce que c'est pas un discours des LFI, hein. C'est un discours, c'est des documents officiels. Donc à un moment donné, il y a un vrai sujet.
C'est pas à la hauteur de ce qu'ils devraient. C'est une application de la règle fiscale.
Oui, mais voilà, mais
là, encore une fois, ils sont pas hors la loi.
C'est parce qu'ils n'ont pas de revenus.
C'est bien ce que je te dis.
Ils sont en fait. Pardon de te couper. Ça démontre une injustice fiscale française incroyable. On surtaxe des gens sur leur capital alors qu'ils n'ont même pas les revenus. Donc ils amputent le capital et ils terminent pitoyablement.
Mais sauf qu'à un moment donné, qui c'est qui est toujours relégué à payer un maximum d'impôts? Je vais aller parler de 45%. On avait même vu à un moment donné qu'une fois que tu avais tout additionné, tu étais pas loin des 55-57. Et donc en fait, c'est un vrai sujet.
Il y a quand même 60% des Français qui ne payent pas d'impôts.
Voilà, et là, il a là le sujet. C'est
donc
qu'en
ça
fait,
repose quand même toujours un peu sur les
mêmes. Moi, je suis pour un impôt universel où tout le monde devrait payer un impôt. Et si tu payes 10 balles par an, tu payes 10 balles par an, mais tout le monde devrait payer un impôt à la hauteur de ce que tu gagnes et à la hauteur. Et ce serait comme ça. Comme ça, tu te sentirais solidaire. Et quand tu iras à l'hôpital, on n'aurait pas besoin de te dire, tiens, au fait, ta fracture du tibia, ça va nous coûter 40 000 balles. Et ben, tu saurais qu'en fait, avec tes impôts, tu payes ça. Et donc, à un moment donné, tout le monde devrait payer. Mais par contre, ouais, le sujet, il est aujourd'hui qu'on est dans un pays où il y a un vrai dérapage des dépenses de l'État. Et les dépenses de l'État, elles sont aussi dans son fonctionnement propre. C'est-à-dire qu'on peut parler des dépenses sociales.
Bah, les dépenses sociales, c'est ce qui coûte le plus cher.
On est d'accord, mais à un moment donné, les dépenses sociales, excusez-moi, mais t'as des gens qui ont travaillé toute leur vie, ils sont retraités aujourd'hui.
C'est la réforme de retraite. Oui. Continue à faire croire, je suis désolé, il y a encore des gens démagos qui continuent à faire croire qu'on peut partir à la retraite à 60 ans.
Mais c'est même trop tard, 60 ans, parce que tu fais pas rentrer les gamins de 20 ans dans le marché du travail.
Non, mais 60 ans, c'est complètement débile. Il n'y a pas un pays au monde.
Oui, mais moi, je suis d'accord avec toi. T'as raison, mais aujourd'hui, on a tellement cassé l'emploi en France, excuse-moi, mais si tu laisses travailler, déjà, un travailleur après 57 ans, il est viré, t'as très peu. Aujourd'hui, t'as emploi des seniors qui est hyper minimum en France.
Bah oui, mais c'est pas en mettant à l'entraide à 60 ans que tu vas améliorer les choses.
Ben, excuse-moi.
Si tu la mets à 65 ou 67, tu verras que les seniors travailleront.
Mais non, ils peuvent pas. Les entreprises les dégagent. Mais non, mais ça, c'est l'évidence.
Mais c'est faux.
Non, c'est entièrement pas faux.
Il a été prouvé que.
Non, non, il y a des statistiques qui disent que les vieux ne travaillent pas assez. C'est comme ça.
Il a été démontré dans tous les pays qui ont mis la durée, enfin l'âge de départ à la retraite plus tardivement, ça fait augmenter le travail des seniors.
On a un manque d'emploi en France. Et aujourd'hui, les gamins peinent à rentrer sur le marché du travail parce qu'il n'y a pas assez d'emplois.
Mais c'est un peu le serpent qui se mord la queue.
Et donc, il faut créer de l'emploi aussi.
On ne crée pas de l'emploi.
Mais sur le plan des finances publiques, c'est pas tenable. Tout à l'heure, il y avait Marc Fiorentino sur BFM Business. Il disait que la réforme, la concession qu'a fait monsieur le Premier ministre, va être catastrophique en termes de.
Je discutais avec un Belge, c'était il y a quelques mois, donc il travaille dans le recrutement, et ils disent, parce que eux, ils ont repoussé leur âge de départ à la retraite, il a dit, mais nous, on est hallucinés quand on regarde les infos françaises. Enfin, nous, le prolongement du départ à la retraite, il s'est fait sans bruit, rien.
Il y a qu'en France, parce qu'en fait, c'est logique.
Et nous, quand on vous voit demander la retraite à 60 ans, mais on se dit, mais ils sont complètement fous.
Je rappelle que
on est en train de s'enfoncer.
Nos cotisations ne payent plus le système. On est obligé, c'est l'impôt aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on est obligé de remettre de l'argent parce qu'on ne finance plus ce système. Ça va nous péter à la gueule. Et il y a un manque de courage politique. Très clair, on l'a bien vu. Et notamment au Parti Socialiste qui veut être un parti de gouvernement. Loïc est avec nous. Il nous appelle de Nogent-sur-Marne. Bonjour Loïc.
Salut mes chers grandes gueules. Merci encore d'être cet espace de liberté, égalité, fraternité que vous incarnez très bien.
Et pas travail, famille, patrie.
Ça, c'est une bonne devise. Voilà, liberté, égalité, fraternité. Et surtout liberté. Alors Loïc, oui. Vous vouliez intervenir sur ce que dit la Cour des comptes, un excès d'impôt. Alors s'il y a un excès d'impôt, qu'est-ce qu'on rabote?
Je suis assez partisan pour élire le prochain président de la République qui est inscrit dans la Constitution que tout élu de la nation qui mettent un déficit négatif et en plus qui ne le respectent pas, puissent pénalement être répréhensibles devant la loi et la justice de la République française. Nous sommes dans un système d'hérésie totale où nous n'avons absolument plus le choix. Nous avons perdu trop de temps. Macron a détruit économiquement le pays, détruit démocratiquement le pays, il l'a abîmé au niveau diplomatique, il l'a abîmé sur toutes ses fonctions régaliennes et en plus le Mozart de la finance et le record de l'histoire du déficit. Donc à un moment donné, il faut être très simple, la France a beaucoup d'argent, la France est un super pays qui peut redevenir en 5 à 6 voire 7 ans dans le droit chemin. Mais pour ça, il faut effectivement le courage, qu'il n'y en a pas. Donc ça veut dire qu'il faut arrêter le système des carrières politiciennes qu'ils défendent. Moi, je le vois sur des départements, des régions. Je suis intervenu avec des présidents. Je peux vous dire que même dans des localités, on voit des gens se battre pour garder leur poste et faire des indemnités en crachant sur la majorité, mais ils siègent et ils votent pour le budget de la majorité. Il y a des trahisons dans tous les sens. Donc il faut redevenir avec des capitaines d'industrie, d'entreprise, des visions économiques. Faux. Un, que les dépenses du pays servent avant tout sur l'investissement du futur. Nous avons des trucs hyper intéressants qui sont en train de se passer au niveau de la fission et de la fusion nucléaire. Ça, il faudrait drastiquement...
Sauf que là, dans ce cas-là, nos dépenses ne doivent pas être sur le fonctionnement, mais sur l'investissement. Oui.
Oui, mais alors pour les dépenses de fonctionnement égalitaire, mon cher Olivier Truchot, j'avais déjà intervenu dans votre émission pour dire qu'il fallait réguler les fonctionnaires titulaires et les fonctionnaires, ceux qui sont en contrat.
Contractuels.
Les contractuels. Pourquoi?
Ils ne sont pas fonctionnaires d'ailleurs, ils sont contractuels.
Voilà, mais parce que, un, les contractuels, comme des intérimaires, tous les trois ans, ça se remplace ou ça se supprime. Ce qui veut dire qu'on n'a plus une masse salariale engagée sur 40 ans. Deux, je termine. Les contractuels, ils bossent généralement beaucoup plus efficacement. Donc, vous diminuez le nombre de titulaires, vous les égalisez.
Ah, avec ça, c'est dans le monde de Louis.
Non, pas du tout.
C'est ah, bah, c'est. Moi, j'étais intérimaire, comme on savait qu'on était viré au bout de trois semaines.
Non.
On savait ce qui s'est passé.
Toi, t'as aucune conscience.
Pas le temps, pas le temps.
Je te signale que les Français, ils payent une partie des impôts des retraites des cheminots dans ton monde de Wouhou.
Oui, c'est bien. Je t'ai reconnu. C'est comment il s'appelait, là, celui qui paye.
Mais n'écoutez pas Bruno Poncet.
Le truc qui paye, là. Martin qui paye, ou je sais pas.
C'est Nicolas qui paye.
Nicolas qui paye.
Nicolas qui paye une partie de ta retraite, mon cher.
Oui, bien sûr. Mais moi, je paye la tienne aussi. Rappelle-toi, parce que moi, je cotise aussi. Et puis, moi, ça fait. Alors, bah moi, ça fait pas 3 semaines que je cotise. Ça fait 35 piges que je cotise pour des gars comme toi qui me crachent dessus en regard de journée. Donc, c'est pas mal.
Bon, allez.
T'as raison.
On va pas se faire, la bataille de celui qui cotise. Tout le monde cotise. Merci, Loïc. En tout cas, Loïc, il attend qu'il y ait des mesures un peu courageuses qui soient prises. Merci d'avoir appelé au 32-16. Dans un instant, est-ce que le permis de conduire est trop dur? Oui, il y a l'idée d'une réforme pour assouplir l'examen du permis de conduire. Est-ce que c'est une bonne idée ou au contraire, attention, danger. À tout de suite sur RMC.
RMC. Alain Marchal, Olivier Truchot.
Les Grandes Gueules.
Les Grandes Gueules autour de la table aujourd'hui pour terminer la semaine. Bruno Poncet, le cheminot, Emmanuel Devilliers, l'entrepreneur, et Joël Dagossiri, la coach de vie. Le permis de conduire est-il trop difficile ? Dans les tuyaux, il y a une réforme du permis de conduire qui pourrait assouplir l'examen avec une approche plus nuancée de certaines erreurs jusqu'ici jugées éliminatoires. Par exemple, l'arrêt incomplet à un panneau stop, ça serait pas forcément éliminatoire. Ou changer de fil sans vérification préalable. Vous savez, il faut changer de fil, il faut regarder le rétro, etc. Bon, bah ça, si vous faites cette erreur... Vous changez de fil sans vérifier, lorsque vous passez le permis, vous êtes sûr de ne pas l'avoir. Eh bien, ces comportements ne seraient plus sanctionnés par une élimination directe. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Est-ce que aujourd'hui, passer son permis, c'est trop compliqué? Ça embête d'ailleurs beaucoup de jeunes parce que il faut attendre. Les délais sont très longs, donc il faut attendre beaucoup de temps avant de repasser. Dans ce cas-là, il faut reprendre des cours, ça coûte cher. On se retrouve avec des forfaits qui font exploser. Le budget, est-ce que effectivement, à l'heure où quand même nos voitures sont plus simples à conduire, plus sûres aussi, est-ce qu'il faut pas assouplir le permis? À vous de le dire au 32-16, Bruno Poncet.
Mais non, mais là, je crois qu'on touche le fond en fait, parce qu'à un moment donné, la sécurité routière, le permis, c'est quand même la garantie de notre sécurité à nous quand on est sur la route, en tant que piéton ou en tant que
ou les autres automobilistes.
Et il y a un vrai sujet, c'est-à-dire qu'en fait, pour pallier à la pénurie d'inspecteurs, ils veulent alléger le permis de conduire. C'est pareil, pour alléger le manque de profs, ils veulent alléger le programme. En fait, c'est ça. C'est-à-dire que tu veux toujours tirer vers le bas. Moi, je suis désolé, mais aujourd'hui, le permis et le fait que déjà, le code, tu l'as avec, je crois que c'était 5 fautes. Donc, si tu fais moins de 5, enfin, si tu fais 5 fautes ou moins, tu as le code. Et aujourd'hui, moi, je trouve que c'est le permis, il doit être compliqué. Derrière, c'est entre
pas de simplification pour toi.
Mais non, parce qu'entre tes mains, t'as quand même un engin qui peut tuer. Enfin, faut jamais oublier que même une trottinette peut tuer, en fait. Moi, je trouve que les gens sont, enfin là,
je voudrais qu'on donne la parole tout de suite à un gérant d'auto-école qui vient de nous appeler au 3216, un professionnel. C'est Hichem qui est avec nous du côté du Rhône. Bonjour.
Oui, bonjour.
Alors, que pensez-vous de ce projet de réforme, d'assouplir un peu les conditions du passage du permis de conduire?
Et je vais reprendre ce qui vient d'être dit. Aujourd'hui, en France, on manque d'inspecteurs. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Ben, tiens, on va toucher au permis de conduire, on va le rendre plus simple. C'est n'importe quoi. Voilà. Comment ça? On va aujourd'hui tolérer un gamin qui grille un stop? Bon, bah, bon, c'était pas une faute éliminatoire. Bah, t'as le permis ou le gamin qui passe au feu rouge. Mais merde, mettez des inspecteurs. On bosse comme des malades pour essayer de former des élèves, de les mettre au niveau. Oui. Et on n'a pas de date pour les présenter. C'est là le problème.
Oui, mais enfin, on s'est pas complètement arrêté un stop. Sachant que dans ce cas-là, bien sûr, s'il y a de la circulation, c'est dangereux. Mais s'il n'y a pas de circulation et qu'on s'arrête pas complètement à un stop, est-ce que ça doit vraiment être éliminatoire?
Et le jour où il y a un gamin qui passe, on fait comment?
Bien sûr.
Mais non, mais si on réagit comme ça, autant donner le bac à tout le monde, autant donner le permis à tout le monde.
C'est ce qu'on fait.
Ouais, non, mais voilà, à un moment donné, il faut prendre le problème à la racine et de se dire, bah, il y a un problème en France, il manque des inspecteurs du permis de conduire, on va augmenter le nombre d'inspecteurs, les auto-écoles, on va faire un boulot de qualité, on va former des gamins. On regarde aujourd'hui en France l'augmentation des accidents, l'augmentation des morts.
Ça monte pas, c'est pas vrai, c'est chiffre.
L'accidentologie 2025, on a aujourd'hui plus de 60 morts en plus.
On reste autour de 3000, c'est-à-dire que on est arrivé à un plancher, peut-être un plafond, mais un plancher.
C'est toujours trop.
Je suis d'accord, Hichem, mais pardon, mais moi je connais plein de jeunes qui aujourd'hui passent le permis automatique. Parce que c'est moins long, c'est coûte moins cher, et c'est plus facile.
Oui, c'est vrai. Ça, c'est aujourd'hui, on y arrive. Aujourd'hui, la voiture électrique est de plus en plus présente sur le marché français. Donc oui, effectivement, l'augmentation du permis en boîte auto, on le consacre, mais on répond pas à une problématique là. C'est juste qu'aujourd'hui, le marché.
Oui, mais pourquoi les gens passent, pourquoi ces jeunes passent le permis automatique? Parce que c'est moins cher, c'est moins difficile, c'est moins long. Ils ont une passerelle parce qu'il suffit de quelques heures de formation supplémentaire pour avoir le permis.
Ça m'étonne de toi, Olivier, de dire que c'est bien que les gamins passent le permis automatique parce que c'est moins dur. Toi qui arrêtes pas de.
Non, je dis pas que c'est bien, je constate, c'est factuel.
Les gamins qui font plus d'efforts à l'école et tout, là, le gamin pour un permis, on va te faire passer un permis d'une voiture à pédale parce que
c'est trop dur. Pardon, je suis une génération, j'ai passé mon permis, c'était 20 heures de conduite et on l'avait, et j'ai eu du premier coup, j'ai fait que 20 heures, j'avais jamais conduit de ma vie.
Vous étiez en campagne ou en agglomération?
Mais en agglomération, j'étais en région parisienne, j'ai passé à 18 ans, j'attendais d'avoir mis 18 ans parce que j'étais en banlieue, je voulais pouvoir conduire parce que c'était la liberté, quoi. On pouvait aller à Paris, etc. 20 heures, en fait, de 20h, je vous le dis, enfin, j'avais jamais conduit de ma vie. J'ai eu du premier coup, j'ai eu mon code du premier coup. Voilà, et ça fait maintenant quelques années que je conduis.
La moyenne nationale, c'est 35.
Parce que c'est des tanches.
Mais excusez-moi, mais le vrai scandale du permis, c'est pas sa dureté, c'est son prix. C'est extrêmement cher.
Madame, le prix, c'est le prix. Sur une leçon de conduite entre 50 et 60 euros facturés, quand vous payez un moniteur, une voiture, une assurance. Mais regardez ce qui nous reste à la fin.
Je dis pas ça pour vous. Je dis juste que c'est très cher. Je regarde ce qui se fait à côté. Je veux dire, en Espagne, au Portugal, on conduit aussi. Hein, c'est les mêmes voitures, les mêmes constructeurs. Ce sont des routes. C'est les mêmes. On a les mêmes routes.
Les routes espagnoles sont en taxe. Hein.
Oui, d'accord. En tout cas, le permis, il est entre 700 et 1000 euros. Voyez. Donc moi, c'est pas vous que j'accuse. Moi, je sais très bien comment on est chargé en France. Pareil. Mais je dis juste que le premier scandale est ce qui crée un accès difficile au permis, déjà, c'est son coût. C'est son coût, parce que déjà, il faut y entrer dans la formation. Il faut avoir les moyens de se la financer.
Ils enlèvent le CPF.
Qu'est-ce que c'est le CPF?
Le compte de formation,
on pouvait payer le permis avec son compte de formation. Voilà. Nous, aujourd'hui, on militait pour que les parents puissent utiliser leur compte de formation pour payer le permis de leurs enfants. Ils veulent pas. Et au contraire, aujourd'hui, en France, on peut faire de la poterie avec son compte de formation. J'ai rien contre les gens qui font de la poterie, hein, bien sûr. Mais on peut pas passer un permis avec son
compte de formation. C'est n'importe quoi. Merci Hichem d'avoir appelé au 32-16, d'avoir défendu le fait qu'il faut pas assouplir le permis. Emmanuel De Villiers.
Oui. Alors moi, je vais faire une première dans les grandes gueules. Je n'ai pas d'avis.
D'accord, carrément. Tu n'as plus d'avis.
Je me range un peu derrière Hichem en tant que professionnel. J'observe aussi que Bruno, ce matin, entre l'impôt universel sur le revenu et la priorité à la sécurité routière, il est aux portes de l'affiche R.
Il vieillit,
Bruno.
Non, mais pour la sécurité routière, c'est que moi, à 20 ans, j'ai failli perdre ma jambe droite et j'ai failli crever dans l'accident de moto par un mec qui n'avait pas respecté ni un stop ni le taux d'alcoolémie dans sa bagnole. Donc en fait,
il avait passé son permis.
Il l'avait, en fait.
Oui, donc.
Mais il l'avait, mais bon, il respectait pas le.
Oui, sauf que quand tu le passes à 18 ans et ton comportement 20 ans après.
Il n'avait pas 40 ans non plus.
Manon est avec nous au 32-16. Elle vient de passer son permis. Manon, bonjour.
Bonjour. Moi aussi, les grands gueules. Vous allez bien?
Très bien. Manon, vous avez passé le code, c'est ça?
juste passé la corde en fait. Donc là, je l'ai repassé parce qu'elle avait expiré. Alors, en fait, j'ai hésité. Donc ça fait 5 ans que mon code a expiré et j'ai essayé d'en passer parce que justement, je trouve que les règles sont pas assez dures. Parmi de conduire, j'ai écouté, vous disiez qu'effectivement, on a une voiture vraiment qui peut tuer des gens, et c'est vrai, c'est pour ça que j'ai vraiment hésité à le passer, alors que je suis jeune, et pourtant, ça devrait m'être utile. Et en fait, je trouve que c'est pas assez dur, les règles. Enfin, déjà, supprimer le fait que pas franchir, enfin, pas s'arrêter un stop, ça sera pas une erreur définitive, déjà, c'est ridicule. Enfin, déjà, on franchit un stop sans s'arrêter, on peut tuer des gens.
Non, ça serait un arrêt incomplet, c'est-à-dire, vous voyez, vous arrivez au ralenti, au stop.
Oui, mais arrêtons-nous, si les feux rouges sont là, de s'arrêter.
Tout le monde l'a fait, ça, quelle hypocrisie.
Oh putain, mais quelle horreur la loi.
Oui, c'est pas là pour décorer, donc à un moment donné, il faut arrêter de toujours vouloir assouplir. Enfin, je pense qu'on se rend pas compte, mais un piéton, même en ville, par exemple, il y a un stop. On roule à 50 km/h. Si on s'arrête pas à un stop, un piéton peut le tuer.
Mais c'est pas dans ce cas-là. Imaginez un stop, il y a aucune voiture, la personne, au lieu de faire un arrêt définitif, complet, finalement continue à avancer à vitesse très réduite.
Mais tu es en train d'expliquer, Olivier, que quelqu'un qui passe le permis, il peut éviter de s'arrêter un stop. Par contre, quand il sera sur la route et qu'il y aura la police juste en face de lui qui fera ça, il prendra une cartouche, le mec, il se dira, mais j'ai pas compris, au permis, on me l'a donné comme ça. Non, c'est vraiment l'intelligence complète, là.
Le problème, Manon, aussi, c'est qu'il y a une expansion nouvelle, assez récente, de stop qui ne servent à rien et qui donne un très mauvais exemple parce qu'on s'arrête pour rien.
Ah, ça y est, il est comme Louis Darkozy, il faut retirer.
Mais c'est vrai que ça existe aussi.
Je préfère m'arrêter pour rien et qu'il y ait zéro danger plutôt que de m'arrêter tout court ou de...
Oui, mais on peut faire preuve peut-être de discernement. Je suis désolé, c'est comme moi. Je trouve, par exemple, qu'il y a trop de feux en ville. Il y a des villes, vous savez, il y a des expériences dans d'autres pays où on a supprimé les feux. Et on s'est aperçu qu'il y avait moins d'accidents.
T'es pas piéton.
Non, il y avait moins d'accidents. C'est pourquoi? Parce que les gens étaient plus vigilants.
Bien sûr.
Au lieu de subir des feux un peu intempestifs.
C'est vrai que t'es pas piéton, Olivier.
Eh bien, t'étais obligé d'être plus vigilant.
Olivier, va. Alors déjà aujourd'hui, tu sais, tu prends le.
Je suis piéton aussi.
Tu passes, tu sors de la gare de Austerlitz. Tu veux prendre le pont pour aller à la gare de Lyon, et donc tu prends ce petit passage piéton de grande qualité. Je peux te garantir, les gens là, ils ont appris un truc, c'est que quand c'est rouge, ils accélèrent. Le nombre de fois où quelqu'un a failli crever là, c'est un truc sans air. Mais faut arrêter. Il y a un code de la route, faut le respecter. Qui suis pas habituellement pour les codes, je te garantis que le code de la route, je trouve que c'est la base de la base. C'est vraiment.
Mais tu vois, le fait qu'on ait un taux de réussite au premier passage de 50%, 55%, tu vois, c'est pas énorme. Quand t'as payé autant d'argent, que t'as attendu des années, enfin des mois et des mois, une date, et que t'as que 55%, enfin il y a quelque chose qui va pas.
Après, faut pas s'étonner qu'il y a autant de gens qui conduisent sans permis.
Je regardais sur l'Allemagne par exemple, qui est le pays où qui a un permis qui est plus cher que le nôtre, donc ils sont à peu près à 2 500 euros. Par contre, ils ont une formation qu'ils appellent d'excellence, donc en fait ils te font conduire de nuit, ils te font conduire en intempéries, etc. Et t'as le taux de réussite qui est bien plus élevé. Donc moi, si je paye cher et que j'ai une formation vraiment de qualité et que j'ai un taux de réussite élevé, vas-y. Mais si c'est pour avoir ça, non.
L'exemple allemand défendu par Joël Dagosséry. Le permis de conduire est-il trop difficile? On a posé la question sur le compte X des Grandes Gueules. Et qu'avez-vous répondu? Eh bien, vous dites non, sûrement pas. Ah, 82%. C'est tous les gens qui l'ont eu, en fait. Allez, dans un instant, est-ce qu'aujourd'hui, la France insoumise vous fait plus peur que le Rassemblement national? Est-ce que les choses ne se sont pas inversées? Ah, il y a débat. À tout de suite sur RMC, RMC Story.
RMC, 9h midi, les Grandes Gueules.